avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, reportage à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris, troisième et dernier volet de nos réflexions sur l'agriculture. Cette fois, nous partons tous ensemble dans les étables, sous le pis des vaches, dans les poulaillers, portraits d'hommes et de femmes, ou comment des agriculteurs au bord de la faillite ont réinventé leur vie. Dans un pays, la France, premier producteur agricole européen, avec presque la moitié de sa superficie qui est consacrée à la culture et à l'élevage, mais dans un secteur frappé par la crise, avec une baisse majeure du nombre d'exploitations, et puis des revenus aussi, qui sont en baisse, 26% de moins en 2016. Pour une charge de travail importante, contraignante, peu ou pas de vacances, des horaires à rallonge. Alors face à ces réalités, l'agriculture biologique, elle, se porte plutôt bien. La part de l'alimentation bio, sans produits phytosanitaires ni OGM, a bondi de 20% dans le panier de la ménagère, et les surfaces cultivées en bio ont progressé de 16%. Alors le secteur bio peut-il sauver les agriculteurs en France? Oui, je sais, c'est une question forcément naïve, mais qui a le mérite de laisser la parole, ou plutôt de nous permettre d'écouter une autre parole. Agriculteurs, ils ont réinventé leur vie. Reportage d'Alice Milo auprès de trois éleveurs français qui ont quitté le système conventionnel pour le bio. Tout de suite, état des lieux d'un secteur en souffrance. Bonjour Alice Milo.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez rencontré un couple qui permet de mieux cerner, en tout cas pour nous, les immenses difficultés de la profession.
Et oui, il s'agit de Christophe et de Ludivine Lemonnier, 40 ans. Ils vivent en Normandie, dans le département de la Manche. Le couple, parent de deux ados, est à la tête d'une exploitation familiale de vaches laitières depuis une quinzaine d'années. Et justement, s'il y a bien une filière qui souffre dans l'agriculture, c'est celle du lait, victime de la volatilité des prix du marché et de la concurrence européenne après l'abandon des quotas laitiers en 2015. Si bien qu'il y a un an, la mort dans l'âme, Christophe prend la décision douloureuse de vendre ses vaches. Ils racontent tous les deux cet échec dans un livre témoignage, Le jour où j'ai vendu mes vaches, et ils m'ont reçu dans leur ferme à quelques kilomètres de Bayeux.
Voilà, ben, ici c'était la stabulation des vaches. Il y avait une... On a monté jusqu'à une soixantaine de vaches laitières sous le même bâtiment. C'est des bâtiments de genisse, il n'y en a plus qu'un d'occupés parce que l'autre est vide, parce qu'il n'y a plus d'animaux à mettre dedans. Et là, je vais vendre les 4-5 vaches qui me restent au printemps 2017. Là. Voilà, après, c'était pas une décision facile à prendre et ça a été un an entre guillemets, à me mouronner avant que je prenne vraiment la décision d'appeler la laiterie et de dire voilà, j'ai envie de rompre mon contrat et d'arrêter de traire. La salle de traite est juste en face. Pour l'instant, elle n'est pas encore retransformée ni démontée. J'ai peut-être pas la force de la démonter encore pour l'instant. J'ai commencé à traire avec mes parents. J'avais 10 ans. À 10 ans, je venais traire à la fin de l'école avec mes parents pour dire voilà, ça me plaisait d'aller aux animaux ou voilà, aller dans les champs avec mon père.
Vous vous souvenez le dernier jour où vous avez trait vos vaches?
Ouais, oui, je m'en rappelle, c'était un samedi soir. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai rien dit à personne, j'étais un peu bête. Voilà, dans moi, je me suis dit, ben, c'est la dernière fois que j'éteins ma machine à traire et je la rallumerai pas demain. Et voilà, c'est psychologiquement, c'est dur. Et le lendemain, quand mon gamin était chercher du lait, il me dit, papa, il n'y a pas de lait dans le tank. Mais j'ai dit, non, mon chéri, il n'y en aura plus. Voilà, c'est comme ça. Pour lui, c'était, papa, il traira toujours et voilà. On se sent toujours coupable quand on ne réussit pas dans sa vie, en fait. C'est pas comme un ouvrier qui est dans une usine que l'usine ferme ses portes et qui se trouve licencié. Là, c'est mon entreprise personnelle et voilà, je peux m'en vouloir qu'à moi ou peut-être à la conjoncture du lait à l'heure actuelle qui fait que j'ai été obligé d'arrêter. Mais voilà, indirectement, c'est un échec personnel. Quand je vais vendre ma dernière vache sur l'exploitation, je pense que là, ça sera vraiment la dernière ligne du livre, on pourrait dire.
On rentre?
Ouais.
J'enlève mes chaussures?
Non, allez-y.
En même temps, c'est mes sous, c'est les sous que je t'ai donné.
Non, elle m'a dit, papa, est-ce que tu peux payer ce bouquet-là à maman?
Moi, je viens de Tracy-sur-Mer, le village juste à côté, où mes parents étaient éleveurs laitiers aussi.
J'ai toujours vu mes parents bosser. L'élevage laitier, ben, c'est toujours... Il faut être là matin et soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Quand j'étais adolescente, oui, moi, je voulais une vie à la ville. Je voulais être une fille de la ville, quoi. Et hors de question que je me marie avec un agriculteur. Ma mère m'a dit, j'ai dit la même chose que toi, regarde où j'en suis. Après, voilà, j'ai épousé un homme et pas un métier. Hein. On tombe amoureux de quelqu'un, hein. J'étais enceinte, je ne sais plus si c'est de Louise ou de Gabriel, mais je lui ai dit, bah, prends-moi à traire, on ne sait jamais, le jour où tu as besoin, enfin voilà, et j'ai trait quelques fois. Le quotidien, c'était plus moi à la maison, les chambres d'hôtes et la table d'hôtes, et puis bah, les enfants qui étaient tout petits.
Ça a vraiment commencé à mal aller dans les années 2009, à la première grosse crise du lait, que ça a commencé vraiment à se dégrader énormément. Sur une année laitière, le coût de production d'un litre de lait, on va dire, coûte 35 centimes, 35-36 centimes, ça dépend les années, le prix des aliments et du carburant et tout ça. On a un prix du litre de lait qui est payé en pleine crise entre 24 et 25 centimes. À chaque fois qu'on produit un litre de lait, il nous manque 10 centimes dessus. Comment on peut l'expliquer, je ne sais pas. Il y en a qui doivent gagner dans l'affaire, mais voilà, pas les producteurs de lait en tout cas. Sur une exploitation comme la mienne... En pleine production, on pouvait produire à peu près 30 000 litres, 32 000 litres de lait par mois. Si vous multipliez par les 10 centimes, vous faites vite le calcul. Alors ça fait 3 000 euros de moins tous les mois sur la paye de lait. C'est des dettes qui s'accumulent, c'est des retards de paiement chez les fournisseurs. On travaille à perte tout le temps.
Ça s'est traduit par Christophe qui ne se versait pas son salaire. Et puis à la fin, à un moment, on a un voisin là qui était le directeur à l'époque du Bricomarché qui m'a dit bah, « j'ai un poste de caissière qui se trouve libéré là, si tu veux, je te passe quoi ». Donc bah, j'ai dit oui.
Et est venu un moment où même ça, ça ne suffisait plus.
Donc à partir de 2014, août 2014, les huissiers ont commencé à prélever sur mon compte des factures qu'ils ne pouvaient pas prélever sur le compte professionnel ou directement sur la paye de lait. Donc ils prélevaient sur mon compte qui était au nom de monsieur ou madame. Ils se sont servis. J'ai dit à Christophe, mais as-tu vu, enfin, ils m'ont vidé le compte en entier, quoi. Tout a été sucré, enfin, on n'a plus rien du tout, quoi. Quand vous partez, vous devez faire vos courses du mois et qu'en début de mois, vous avez 40 euros dans le porte-monnaie et vous êtes en train de faire les courses et là, vous dites au gamin, bah, va me chercher ça et tu me dis le prix. Et hop, dans ma tête, je comptais, hop, c'est bon, on arrête. On était agressifs l'un envers l'autre, donc toujours une tension, toujours agressif. On était agressifs avec les enfants, toujours sous tension ici. Une fois, je suis rentrée, oui, Christophe était dans le fauteuil en train de pleurer. Et puis, je lui dis, hein, mais va falloir que tu trouves une solution. Et puis, il me dit, ben, le coup de fusil, c'est peut-être ça la solution. Et là, je dis, non, mais enfin, t'es dingue, quoi.
Des fois, tout le temps, on se dit, voilà, si je me mettais une corde au cou ou une balle, j'aurais plus de soucis. Mais après, d'un autre côté, quand on réfléchit bien, on se dit que bah, prendre cette solution-là, c'est un peu un système de lâcheté envers ceux qui restent. Et non, j'ai peut-être parce que j'ai une famille aussi derrière moi qui est là et que voilà, je sais pas. Il y en a, c'est tellement ancré dans leur âme qu'ils se voient pas arrêter, en fait, hein, même si, en gros, c'est la vie ou la mort.
Voilà, nous quittons la ferme de Christophe et Ludivine. 10 000 des 60 000 éleveurs de vaches laitières pourraient mettre la clé sous la porte en 2017. Selon une estimation de la Fédération nationale des producteurs de lait, l'histoire de Christophe et de Ludivine, ça n'est pas une anecdote, Alice Milo.
Et non, puisque rien que dans la Manche, donc le département où ils vivent, la moitié des actifs agricoles a disparu en 15 ans. Ils sont passés de 20 000 à 10 000, toutes filières confondues, avec des conséquences évidemment dramatiques. 150 agriculteurs mettent fin à leur jour chaque année, soit un suicide tous les deux jours en France chez les agriculteurs. La semaine dernière encore, un drame a eu lieu dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Céline, éleveuse de vaches laitières et mère de deux enfants, a été retrouvée pendue dans sa salle de traite. Elle a laissé une lettre derrière elle expliquant qu'elle ne supportait plus la situation et selon son mari, le couple ne travaillait plus que pour payer les factures.
Et donc face à ces difficultés, de plus en plus d'agriculteurs décident de miser sur la production bio.
Et oui, la marge de progression est énorme hein, puisque seulement 4% de l'agriculture française est bio, un chiffre ridicule si on le compare aux 20% de l'Autriche ou aux 16% de la Suède.
Et pour illustrer l'aventure de la conversion de ces agriculteurs qui ont réinventé leur vie, vous avez rencontré trois éleveurs de la filière lait, porc et volaille convertis au biologique.
Absolument. Et tout d'abord, direction les Yvelines, à quelques kilomètres de Poissy, vivent Marie-Hélène et Damien Bignon, éleveurs de poules pondeuses bio et plein air. Je les ai retrouvés à l'heure du ramassage des œufs et juste avant de rentrer dans le hangar, on s'équipe.
Donc là, je vous me donne une blouse, là, c'est tout.
Et j'enfile ça. Hop.
Alors là, la première chose à faire, c'est frapper à la porte pour ne pas effrayer les animaux. Elles connaissent ma voix déjà, parce que imaginez, j'ouvre la porte, ça crée un stress, elles s'affolent, elles volent. Et... Voilà, donc là, du coup, ben voilà, on fait trois petits coups. Voilà, du coup, ben voilà, on rentre gentiment et qu'elles ne sont pas effrayées. Voilà, elles ne volent pas, elles sont calmes.
Oh là là!
Voilà.
On est rentré donc dans un immense hangar.
C'est un bâtiment qui est conforme au cahier des charges élevage poule pondeuse biologique. C'est un bâtiment de 550 mètres carrés qui accueille 3000 poules pondeuses. Alors les normes, c'est 6 poules par mètre carré au sol avec des perchoirs.
Elles se baladent, elles font leur vie dans cet hangar. Elles ont un accès à l'extérieur?
Oui, elles ont un accès à l'extérieur. Là, il y a des trappes, mais bon... Là, pour l'instant, il y a deux points qui font qu'elles ne sortent pas. D'abord, parce que nos animaux sont arrivés juste avant Noël, donc elles ont 25 semaines. On attend, nous, éleveurs, qu'elles soient bien habituées au bâtiment pour la ponte, qu'elles aient bien repéré les pondoirs.
Alors, dans combien de temps elles pourront sortir?
Ben, si tout va bien, moi, j'aimerais quand même, parce que mon désir à moi, c'est de les voir sortir heureuses. Donc, j'aimerais pouvoir les sortir peut-être début mars. On installe un jardin d'hiver, on fait des sorties progressives pour qu'elles se repèrent, qu'elles ne soient pas trop stressées. Et puis, progressivement, elles peuvent coloniser tout le terrain, quoi.
On les voit, elles sont drôlement curieuses, dis donc.
Oui, elles sont très proches de nous humains. Moi, j'y passe beaucoup de temps, donc elles ne sont pas du tout effrayées par la présence humaine. Dès que je suis dans le bâtiment, elles sont tout autour de moi, elles se perchent sur mes épaules, elles me suivent. Pourtant, vous voyez, ça fait qu'un mois et demi qu'on est ensemble, mais il y a des liens de familiarité qui se créent. Et puis elles savent qu'on est là pour leur apporter du bien et du bien-être, à tel point que quand elles sont effrayées, il suffit que j'arrive, que je leur parle, qu'est-ce qui se passe, les cocottes, chut, 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 et puis voilà, elles s'apaisent. Chut. Ça va les cocottes? Voilà, c'est rigolo parce qu'il y a toutes les têtes qui se dressent et puis elles sont habituées à ma voix.
Et alors, Marie-Hélène, ici, ça n'a pas toujours été comme ça. Ici, vous, aujourd'hui, vous prenez soin de vos poules. C'est l'hôtel 4 étoiles pour les poules, mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Oui, parce qu'il y a un historique, effectivement. Il y avait un bâtiment de 12 000 poules pondeuses en cage.
Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait 5 fois plus de poules ici avant.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'était la génération précédente. Mes beaux-parents, dans cette mouvance de production, où il fallait produire, il fallait nourrir le pays et nourrir à bas prix. C'était les années d'après-guerre, c'était l'industrialisation et la mécanisation, c'était la zootechnie, c'était la taylorisation et la segmentation du travail. Et il fallait aussi intensifier l'agriculture, que ce soit en grande culture et en élevage. Et ils ont monté des poules, les élevages industriels, ce qu'on appelle l'élevage industriel, poules en cage.
Donc les 15 000 poules étaient en cage?
Elles étaient, bien sûr, oui. C'était des cages, ça faisait 60 cm carrés. Et là-dedans, il y avait 4 poules, quoi, hein, voire peut-être plus. Quand mon époux m'a raconté la vie sur la ferme, comment fonctionnait la ferme de ses parents, tout ça, ça a été pour moi un choc épouvantable. Et je me suis vraiment posé la question de savoir mais comment je vais pouvoir concilier ça. Est-ce qu'on a le droit, au nom du fait qu'il faut nourrir à bas coût, de faire n'importe quoi? Est-ce que la faim, c'est vraiment ça la question, est-ce que la faim justifie les moyens? Damien, mon mari, était enseignant et moi, infirmière. Nos enfants sont nés et il a fallu reprendre à un moment donné cette ferme parce que, plus par loyauté filiale, on va dire, hein, parce qu'il n'y avait pas de repreneur. Et...
Il y avait un sentiment d'obligation familiale?
Pour tous les deux, oui. Donc, on a fait un brainstorming avec les parents de Damien Et nous, on a décidé de racheter l'activité de mes beaux-parents pour en faire autre chose, quoi. Et le faire autre chose, c'était la conversion en élevage biologique.
Parce qu'à l'époque, dans les années 90, le bio était encore peu développé.
Oui, surtout nous, ici, on était vraiment les pionniers, hein, c'est sûr. On a pris contact avec le groupement d'agriculture bio de la région Île-de-France, qui était petit à l'époque. J'ai trouvé en face de moi des collègues, des partenaires qui avaient le même souci, mais c'était fabuleux. On ne me traitait plus de Marie-Antoinette, on ne me traitait plus d'idéaliste. Et d'être prise au sérieux dans ce que je pouvais dire, ça m'a vraiment donné des ailes, oui. Pendant plusieurs années, ça a été zéro de bénéfice, hein. On a travaillé pour maintenir et payer les emplois. Il fallait trouver aussi une clientèle. Il y a de ça 17 ans, on a ramé un peu. Et c'est vrai que ça décolle depuis 7-8 ans, vraiment, ça décolle. Là. Et là, de plus en plus, à tel point que là, on peut plus fournir.
8% des poules pondeuses sont conduites en agriculture biologique en France. C'est un des pourcentages les plus élevés dans les filières animales. Alors pourquoi les œufs bio ont particulièrement le vent en poupe auprès des consommateurs français, Alice Milo?
Eh bien, notamment grâce au travail de sensibilisation de L214. C'est une association spécialisée sur la cause animale qui a tiré la sonnette d'alarme à travers des vidéos chocs réalisées dans les élevages. Et depuis, McDonald's, Monoprix, Lidl, les Mousquetaires, de plus en plus de distributeurs s'engagent à ne plus commercialiser de poules en cage.
Quelles sont les motivations des consommateurs? Pourquoi sont-ils prêts à payer plus?
Eh bien, elles sont multiples. Certains pensent bien-être animal, d'autres protection de l'environnement. Enfin, il y a ceux qui sont attachés à leur propre santé ou au goût de l'œuf, tout simplement. C'est en tout cas ce que nous explique Damien Bignon, le mari de Marie-Hélène, dans la salle de conditionnement des œufs.
Là, on rentre là où on ramasse les œufs.
Voilà, donc c'est Stéphane et Damien là, qui s'y collent.
C'est impressionnant parce que ça arrive en permanence. Là, voilà. Il y a des centaines d'œufs qui dévalent, ouais, sur le tapis, un tapis roulant.
Voilà, donc là vous entendez les œufs qui sont placés, ensuite ils sont marqués et puis après on les met en boîte à la main et on a déjà les commandes. Là vous avez une caisse qui va partir sur Poissy, donc c'est à
10 km.
Même pas, oui, 7-8. Il y a une demande qui n'arrive pas à être satisfaite en œufs bio. Et donc tout l'enjeu actuel, c'est comment mieux répondre à cette demande énorme, à une croissance de 10% par an de la consommation en bio.
10 par an.
Oui, voilà.
Quels sont les freins en fait à la conversion? C'est-à-dire que si la demande des consommateurs est là, ça veut dire qu'il y a une capacité à vendre ces produits. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres éleveurs comme vous qui passent le cap?
Le système conventionnel, ça demande des gros investissements dans des poulaillers, dans une filière. Les conditions de travail aussi sont plus... On a plus de travail dans le bio qu'en conventionnel parce que si les poules sont en cage, c'est quand même plus facile de les suivre et d'en suivre un plus grand nombre. Hein. Dans un élevage industriel, la maintenance est beaucoup plus facilitée. C'est pour ça qu'elles ont été mises en cage aussi. Hein. Il y a une résistance psychologique aussi. Ils sont dans un système auquel ils s'accrochent, même si ce système actuellement est en grave crise, hein, que ce soit sur l'élevage ou en grande culture. On voit les faillites, voire les suicides des agriculteurs, donc il y a vraiment une détresse. Mais pour accepter ce changement, ça demande des changements d'état d'esprit, mais aussi des changements économiques dans lesquels il faut être accompagné. On n'a pas non plus les moyens de développement, c'est-à-dire que c'est encore les filières conventionnelles qui utilisent les fonds du développement agricole. L'agriculture biologique n'a pas suffisamment de moyens pour se développer. Notre philosophie en bio, plutôt que de s'agrandir, c'est plutôt inciter des personnes à s'installer. Donc il y a une jeune fille qui a été en formation, en contrat de professionnalisation pendant 3 ans ici et qui ensuite a monté son propre élevage. Donc pour nous, on est fiers de cela.
Donc vous formez vos propres concurrents, quoi, si je comprends bien.
Mais en bio, on est dans la coopération, on n'est pas dans la compétition. Donc c'est aussi dans la charte de nos valeurs. Et on pense qu'il y a la place effectivement pour tout le monde et qu'on a plutôt intérêt à se serrer les coudes plutôt que de se tirer dans les pattes.
Restez avec nous, nous poursuivons avec ces agriculteurs français qui ont réinventé leur vie en quittant le système conventionnel pour l'agriculture biologique. On se retrouve juste après le flash dans 3 petites minutes. A tout de suite les voisins.
Présidentielle 2010. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Agriculteurs, ils ont réinventé leur vie. C'est un reportage d'Alice Milo auprès de trois éleveurs français qui ont quitté le système conventionnel pour l'agriculture biologique. La filière porc est bien représentative de la problématique du bio en France. Moins de 1% de la production porcine est en bio et pourtant les besoins sont énormes. La demande des consommateurs est là, il y a une vraie pénurie. La filière bio porc pourrait vendre trois fois plus, même si elle coûte trois fois plus cher que la viande conventionnelle. Un argument qui convainc de plus en plus d'éleveurs de quitter le secteur conventionnel. Tout de suite, direction à nouveau la Normandie et le département de la Manche, plus précisément à Fervaches, à 15 km de Saint-Lô, où Alice Milo a rencontré Christophe Gosselin, éleveur de porc. Avec son frère, il a repris l'exploitation de ses parents sur laquelle ils ont grandi, une ferme en production intensive que les deux frères ont décidé de convertir au bio il y a 7 ans.
Donc là, on est dans un couloir entre deux bâtiments.
Il y a une surface de bâtiment assez importante puisque c'était une porcherie industrielle auparavant où on avait 120 truies. Et aujourd'hui, on a transformé tous ces bâtiments, on les a modifiés, on a mis les cochons sur la paille. On a mis les animaux sur la paille, mais pas l'éleveur.
Allez, on rentre. Donc ici, c'est la maternité.
Voilà, ça c'est la maternité mise bas. La case est pleine de paille. La truie commence à faire son nid dans les heures qui précèdent la mise bas.
Donc là, on voit une maman avec ses petits. Donc il y a une douzaine de porcelets qui sont en train de la téter. Mmh. Eux, ils sont vraiment pas vieux, là.
Ils sont nés hier, ouais. J'ai quatre truies qui ont mis bas dans l'eau, là, qui ont mis bas hier tout d'un coup. J'ai passé une partie de ma journée hier ici pour juste les surveiller, voir si ça se déroulait bien. J'interviens le moins possible. Aujourd'hui, on ne les vaccine plus, on ne les pique plus, donc elles me craignent moins.
Et avant, c'était pas comme ça.
Parce qu'on avait beaucoup plus d'animaux dans les bâtiments, donc dans des bâtiments beaucoup plus confinés. La concentration animale engendre des pathologies, évidemment, quoi. Alors que là, on a mis beaucoup moins d'animaux dans les bâtiments. On a moins de soucis sanitaires derrière. Puis on s'est aperçu par la suite qu'il y avait des résidus d'antibiotiques dans les viandes de nos animaux que pouvait consommer l'humain derrière et que ça pouvait engendrer des antibiorésistances. Donc là, ça a mis un sérieux frein à l'utilisation des antibiotiques. De plus, les porcelets en système conventionnel peuvent allaiter 3 ou 4 semaines leur mère, alors que nous, en agriculture biologique, on est obligé de faire allaiter les porcelets au moins 6 semaines.
Donc ça veut dire qu'on respecte beaucoup plus le rythme naturel de l'animal.
C'est exactement ça, parce que le cahier des charges d'agriculture biologique, on s'aperçoit qu'il est complètement logique. D'ailleurs, dans biologique, il y a bio et il y a logique. Alors là, on va peut-être s'écarter parce qu'elles sont en train de donner à téter, donc elles ronronnent, elles grognent et ça fait beaucoup de bruit. C'est un spectacle.
Hein. Là, c'est assez drôle, on voit, c'est la bagarre. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de tétines, a priori assez de tétines pour chacun. Mais
Oui, mais généralement, bien sûr, il y a des tétines qui sont plus productives que d'autres. Allez, cocotte, mets-toi debout. Ben alors, ce que j'ai modifié dans ma conduite d'élevage aussi depuis que je suis passé en bio, c'est que je conduis beaucoup mon élevage avec les oreilles, avec tous mes sens, quoi. Avec le nez aussi. Des fois, je rentre dans une salle, je me dis « Ah, ça sent pas bon ici. Il y a des déjections de porcelets qui doivent pas être bien, quoi. » Parce que ça sent pas la même odeur que d'habitude. J'essaye de prendre du plaisir dans mon métier. Et le jour où j'en prends plus, je change de métier. Et je ne prenais plus de plaisir dans mon métier. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ce terme de plaisir, et je pense que c'est primordial. C'était presque l'usine dans la porcherie, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu... Certes, c'est toujours réglé, c'est toujours serré, mais moins.
Qu'est-ce qui a été le déclencheur de la transformation?
Ça, c'est encore une autre philosophie. Je mangeais bio avant d'être producteur bio. J'ai un de mes enfants qui est tombé malade en bas âge, qui a eu une leucémie en bas âge, et ça a déclenché chez nous notre changement alimentaire, en famille. On mangeait de plus en plus bio. Et en 2009, on a pris la décision, on était même prêt à fermer la porcherie si c'était pas possible de la convertir, pour ne faire que du lait en bio, mais arrêter de produire en conventionnel.
Alice Milo, quels sont globalement les déclencheurs de la conversion? Qu'est-ce qui décide les agriculteurs de passer le cap?
Eh bien, les déclencheurs sont multiples. Lorsque j'ai rencontré Christophe, il y avait aussi présent sur la ferme Boris Jeanne, qui est le coordinateur de la filière Port du Nebio, un groupement d'éleveurs. Il accompagne depuis quelques années les agriculteurs qui le souhaitent vers la conversion. Et il a d'ailleurs, entre autres, accompagné Christophe. Et lui, son constat est sans appel. Depuis quelques mois, la demande explose. Il n'y a pas un jour sans que son téléphone ne sonne pour des informations sur la conversion. Donc l'engouement est réel. Alors souvent, le premier déclic est écologique. Les agriculteurs prennent la décision car ils en ont marre d'utiliser le pulvérisateur et de piquer les animaux. Mais le facteur économique est évidemment indéniable. Les exploitations ne s'en sortent pas financièrement. Cependant, Boris Jeanne met en garde les postulants. L'argument économique ne doit pas être le seul facteur de la conversion pour que cela fonctionne. La démarche doit être sincère.
Quand on entend ces éleveurs, ça semble être une évidence qu'ils ont intérêt à passer au bio. Alors, quelles sont les limites? Quels sont les freins à la conversion?
Eh bien, déjà, beaucoup ne se posent même pas la question, soit parce qu'ils ont la tête dans le guidon, soit parce qu'ils sont conditionnés dans un système. D'autre part, pour ceux qui veulent franchir le pas, la conversion est plus ou moins aisée en fonction des bâtiments existants sur la ferme. Parfois, il faut tout refaire à neuf, et les coûts d'investissement peuvent décourager les éleveurs, notamment si l'exploitation est déjà endettée. Alors, évidemment, il existe des aides à la conversion qui sont proposées par l'Europe via la politique agricole commune, mais qui sont suspendues depuis 2015 pour des raisons apparemment administratives et logistiques. Il existe aussi des aides des régions, mais là également d'un territoire à l'autre, les enveloppes budgétaires varient. Ne comptant que sur lui-même, Christophe a adapté son bâtiment à la sueur de son front.
Tout seul, il s'est débrouillé en gros.
Absolument, de telle sorte à ce que les travaux ne lui coûtent presque rien.
Donc voilà, ça ce sont des porcs en engraissement. Une salle où on peut mettre exactement 39 porcs à l'engraissement. Auparavant, c'était une salle où il y avait 100 porcs à l'engraissement sur caillebotis, donc ces grilles en béton sur lesquelles les porcs vivent et dorment. Et leur déjection passe à travers la grille et est stockée dans une fosse. Aujourd'hui, on a enlevé ces caillebotis, on a mis la paille dans le fond de la fosse. Et pour le cahier des charges d'agriculture biologique, il faut un accès extérieur, à une courette extérieure. On a pris une meuleuse et puis on a découpé une grande porte dans le mur pour que les cochons puissent accéder dans une courette qu'on a aménagée à l'extérieur. Ce qui fait qu'ils ont multiplié leur espace de vie et ils peuvent aller prendre une averse ou un coup de soleil ou un coup de froid ou enfin ce qu'ils veulent, quoi. C'est eux qui gèrent leur température, s'ils veulent aller dehors ou dedans.
Donc là, on voit, ils ont la place de courir, ils ont de quoi jouer, de quoi farfouiner dans la paille.
Il y a un cahier des charges donc en agriculture biologique qui est relativement strict. Il est strictement interdit de mutiler les animaux. Et donc, le coupage des queues et le meulage des dents est strictement interdit.
Avant, c'est ce que vous faisiez, vous coupiez les queues.
On coupait les queues, on meulait les dents.
Systématiquement à la naissance?
Bien sûr.
Pourquoi vous faisiez ça?
Parce que le problème, c'est que sur caillebotis, quand le porc est à l'engraissement, il se marche sur la queue. Les angles des caillebotis sont un peu saillants et ça pouvait générer des blessures. Et les blessures généraient du sang. Et le sang, donc, comme les cochons s'ennuient, eh ben, ils mangent le sang, puis ils finissent par manger la queue, ils finissent par manger le cochon tout entier.
Donc, pour régler le problème, on coupait les queues des cochons à la naissance.
Voilà, et ça réglait une grosse partie du problème, ouais. Et on meulait aussi les dents. Et donc, sur paille, la différence, c'est qu'ils ont de la paille pour jouer, donc ils ne s'ennuient pas. Et comme ils ne s'ennuient pas, ben, ils ne vont pas aller manger la queue du copain.
Ils se roulent dans la paille, ils sont vraiment drôles.
C'est vrai que c'est un contrat qu'on peut passer, un contrat moral qu'on passe avec nos animaux, de dire on vous donne les meilleures conditions de vie possibles, le meilleur aliment possible qui puisse exister, de la meilleure qualité, le mieux équilibré possible. Mais forcément, à la fin, on finira toujours par les manger.
Et l'intérêt de tout ça, c'est que la viande est meilleure. Les gens vous disent que le cochon est meilleur.
Oui, évidemment, ils nous le disent, ils nous le répètent.
Et le processus, c'est qu'il y a moins d'antibiotiques, il y a moins de stress.
Oui, il y a moins d'antibiotiques, une viande plus mature, des cochons qui ont poussé un peu plus doucement, qui ont tété leur mère plus longtemps, des cochons qui ont eu le temps de jouer, enfin qui ont eu une qualité de vie supérieure. Et ce qui fait que derrière, ça engendre une qualité de viande supérieure. On produisait 2400 porcs par an avec 120 truies.
Avant la conversion.
Aujourd'hui, avec 55 truies, on produit 1100 porcelets et on en engraisse à peu près la moitié.
Voilà. Donc vous avez divisé par deux à peu près ?
Oui, on a divisé par deux le volume de production de porcelets, mais on a divisé par quatre le volume de porcs charcutiers. Mais on vit aussi bien.
Comment votre ferme peut être plus rentable avec moins de porcs ?
Parce qu'on est beaucoup plus autonome, puisqu'on produit une grosse partie des céréales que consomment nos animaux. On est autonome puisqu'on fait naître tous nos animaux sur la ferme. Et on n'a pas de charges sanitaires telles que les vaccins, les antibiotiques. On n'arrête pas d'en parler depuis le début, mais c'est un coût. C'est un coût énorme. Et comme on fabrique nous-mêmes l'aliment, forcément, on capte la marge que se fait le fabricant d'aliments pour le fabriquer. Donc on essaye, avec un maximum d'autonomie, on arrive à améliorer évidemment la rentabilité de l'élevage et aussi la viande de porc bio se vend beaucoup plus cher que la viande de porc conventionnelle. Même si son coût de production est un peu plus élevé de par le coût des matières premières, le prix de vente du kilo de viande, lui, est largement supérieur. On aura une différence aussi à la cuisson, c'est tout bête. Mais la viande de mes cochons, moi, ils réduisent pas dans la poêle. Parce que c'est une viande mature. Si on a un rôti de porc qui divise par deux parce qu'il est plein d'eau, ben, le prix au final, il n'était pas plus cher en bio, quoi. Et puis moi, je répète qu'il faut consommer moins de viande. Moi, je fais des repas avec 100 grammes de viande. Ça me suffit largement pour avoir des repas équilibrés et pour être en pleine forme. Donc si on accepte de manger moins de viande, on permettra à plus de citoyens de manger de la viande, de la rendre accessible à plus d'humains sur la planète, et on pourra vivre en harmonie à ce niveau-là, quoi.
Vous, financièrement, vous viviez mal avant cette conversion ?
Depuis que j'étais installé, pendant plus de 15 ans, j'ai vécu avec 30 000, 40 000, 50 000, jusqu'à 80 000 euros de découvertes bancaires. C'était permanent, selon les dires incontournables. Sauf que lorsqu'on a converti la porcherie et converti l'atelier vache laitière, que petit à petit le niveau de trésorerie est revenu vers le zéro, mais même de façon rapide, puis a passé la barre du zéro, et puis est allé à plus 10, plus 20, plus 30 000 euros, et ben on s'est senti avec mon frère, d'ailleurs on s'en est fait la remarque quasiment le même jour, on s'est senti ultra léger. C'est comme s'il y avait on avait tiré un sac à dos de 50 kilos qu'on portait depuis 15 ans ou 20 ans, quoi. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je pense que mon élevage, il est répétable. Et n'importe qui peut le faire parce que c'est pas très compliqué. Il suffit de savoir écouter un peu les animaux.
Avec moins de 4% de la superficie agricole en France, convertie à l'agriculture biologique, évidemment que la marge de progression est énorme. Les consommateurs sont là, on l'a dit, Alice Milot. Alors le bio, seul avenir de l'agriculture, pour les sauver de la faillite, on n'irait pas jusque-là tout de même.
Oui, mais attention, on va dire que tous les éleveurs que j'ai rencontrés partagent une même inquiétude, hein, qu'il faut relayer, que l'agriculture bio soit victime de son succès et que la filière bascule dans une forme d'industrialisation. Alors concrètement, ça signifierait que les culture bio continue à être sans pesticides ni OGM, mais avec par exemple de gros volumes qui, eux, ne sont pas générateurs d'emplois. Autre inquiétude, que cet appel d'air nivelle vers le bas les exigences réglementaires de la bio, autrement dit que le cahier des charges européen cède aux pressions des lobbies, hein, qui peuvent être les groupes agroalimentaires ou les coopérations conventionnelles, qui souhaitent, eux, assouplir la réglementation au point d'autoriser un bio light, avec par exemple un pourcentage d'OGM, de pesticides ou de caillebotis, et que, in fine, cela détériore la qualité du produit. Donc les groupements d'éleveurs, tels que Unebio, insistent sur le fait qu'il faut rester vigilant.
Alors, sachant que le consommateur est déjà souvent un petit peu perdu dans le flot de labels existants, et que ça risque de créer encore plus de confusion, c'est aussi l'avis du dernier agriculteur que vous avez rencontré ?
Oui, direction la Vendée, à une vingtaine de kilomètres de la Roche-sur-Yon, chez Paul Vieille, éleveur de vaches laitières. Je l'ai retrouvé à 17h, heure de la traite.
Là, on ferme les barrières pour que les vaches viennent, rentrent dans la salle de traite et qu'elles ne sortent pas, évidemment, avant qu'elles ne soient traites. Elles vont toutes être stockées serrées les unes contre les autres avant qu'on les rentre par petits lots dans la salle de traite. Allez, hop, hop, allez là, hop.
Là, vous êtes derrière elles et vous les encouragez à se diriger vers la salle de traite.
Elles ont l'habitude, hein, matin, soir. Allez, hop, allez, allez, allez. Donc là, je referme la barrière et on va traire maintenant.
Ça y est, on peut les brancher, celle-ci ? Ouais. Laver ? Ah, d'accord.
Donc en fait, votre tête est à hauteur de pied. Hein.
Et là, on est bien, c'est ergonomique. On a la tête à hauteur de la mamelle.
Donc là, les pieds sont lavés.
Les pieds donc sont lavés. Vache après vache, on va brancher à chaque fois un manchon par tétine. 4 tétines pour chaque vache, 4 manchons.
Mais aujourd'hui, Paul, il existe des systèmes de traite du lait par robot où en fait l'éleveur n'a plus rien à faire. Hein. C'est la vache qui vient jusqu'au robot pour oui. Se faire traire. Vous, ça vous tentez pas ?
C'est un investissement très coûteux, un robot. Moi, j'ai préféré investir dans ce qui permet de développer l'emploi. Le fait de ne pas avoir pris cet investissement-là très très coûteux m'a permis justement cet argent, je l'ai mis dans la fromagerie. Et donc, en mettant dans la fromagerie, puis en mettant dans un camion pour aller vendre des produits, eh bien, on peut être 5 aujourd'hui. Bah, si on avait le robot, cette ferme pourrait presque vivre avec un seul travailleur. Allez, là, oh, allez, allons. Je soutire du lait pour nourrir la quinzaine de veaux qui ont besoin du lait ce soir. Voilà. Donc on entend voilà, les veaux savent que c'est l'heure du casse-dalle.
Là, c'est le nourrissage des veaux. Donc là, vous installez des seaux avec des tétines.
On installe les seaux à tétines. Donc, vous voyez, ils donnent des coups de tête.
Et donc, Paul, ici, on est donc dans un élevage bio.
Alors ici, oui, on est dans un élevage bio. Et donc, nos animaux, dès qu'ils peuvent, ils sortent au champ. Et ils vont donc eux-mêmes se chercher la nourriture par la pâture.
Bio, parce que donc toute la nourriture de vos vaches est sans pesticides.
Aucun engrais de synthèse, aucun produit de type qui se termine par cide. D'abord, les herbicides, mais aussi les fongicides, les insecticides.
Et alors, Paul, ça n'a pas toujours été comme ça, ici, dans cette ferme.
Moi, je suis arrivé ici, installé comme jeune paysan en 1981. Quand on sort d'une école d'agriculture et qu'on veut s'installer dans les années 75-80, on ne sait pas ce que c'est que l'agriculture biologique.
Quand et pourquoi vous avez décidé de vous convertir alors ?
Le maïs, avec 2 années de sécheresse, a donné des rendements catastrophiques. Ces années-là ont été pour moi donc un peu des électrochocs pour me dire peut-être qu'il faut s'adapter un peu plus à nos sols. Et peut-être que ce modèle de faire toujours plus de maïs, c'est pas le plus adapté. Moi, j'ai accepté à ce moment-là que mes vaches fassent un peu moins de lait, mais qu'elles fassent du lait qui était fait avec des prairies qui coûtaient moins cher. Ça va, Lucie ?
Oui, il y en a juste une qui est coupée sur
le trayon.
Ouais. Mais pas celle qui n'est pas une nouvelle.
Une nouvelle ?
Ouais, et du coup, je voulais voir avec toi avant de la brancher si je pouvais la brancher.
J'étais prêt en 1999 à passer en bio et coup de Trafalgar, en 2000, un cas de vache folle se déclare sur ma ferme.
Qu'est-ce qui vous a alarmé au départ ?
Alors, ce qui m'a alarmé, c'est le fait que la vache la plus gentille du troupeau se mettait à avoir une agressivité phénoménale en salle de traite, à taper, donner des coups de pied. Et donc, c'était des réflexes neurologiques qui étaient sans doute indépendantes de sa volonté puisqu'elle était d'un tempérament calme. C'est-à-dire que ma vache, en 2000, alors que je suis en agriculture biologique, elle a été contaminée 6 ans avant par des granulés achetés à une coopérative, granulés que je considérais a priori comme sains. Et en fait, cet aliment était constitué de graisses animales et les graisses animales sont le support du prion pathogène de la vache folle. Et ces gras d'écarissage qui étaient pas chers ont permis de nourrir à pas cher des petits veaux ou des jeunes bovins. Et donc tout le troupeau a été abattu. Ça m'a conforté vraiment dans ce choix de partir en bio et qu'on a une responsabilité justement forte en tant que producteur dans la qualité de ce qu'on va mettre sur le marché. Il ne suffit pas de demander à des vaches de produire toujours plus. Il faut se demander est-ce que notre lait est bon ? Est-ce que notre viande est bonne ? Donc, allons à la bagarre. Faisons le deuil, passez-moi l'expression, de ce troupeau, en allant chercher à ce que les choses changent.
première partie d'émission, Alice, on a entendu le témoignage de Christophe Lemonnier, ex-éleveur de vaches laitières, qui a vendu ses vaches pour cause d'endettement. Alors pourquoi Christophe n'a pas pensé à passer au biologique pour sauver son exploitation, comme Paul Vieille, qu'on vient d'entendre?
Eh bien, je me suis posé la même question. Et il m'a répondu que si tous les éleveurs passent au bio, cela finirait par provoquer un effondrement des prix du lait bio à cause de la fameuse loi de l'offre et de la demande. C'est donc une question que j'ai posée aux éleveurs convertis, que j'ai rencontrés. Est-ce que les prix ne bénéficient pas du petit pourcentage de la filière bio? Et tous m'ont répondu que oui, peut-être, et que la seule manière à l'avenir de garder la main mise sur les prix, c'est de garder le contrôle du commerce. C'est le choix de Paul Vieille, qui a créé une fromagerie sur son exploitation. Pour y accéder, on quitte la salle de traite et on pousse la porte d'à côté.
Donc là, je vais retourner les fromages, parce que ces fromages, ce sont l'équivalent des Saint-Marcellin. Je les retourne afin ensuite de les saler.
Donc là, Paul, vous avez revêtu votre tenue de fromager, vous avez abandonné la tenue de l'éleveur, et donc là, vous êtes en tablier blanc, bottes blanches avec Charlotte sur la tête.
On est dans une fromagerie type fermière, ce qu'on appelle fermière. Ça veut dire qu'on ne transforme ici que le lait de nos vaches. On transforme un lait chaud, hein, le lait qui vient de la traite. On fait beaucoup de fromage de type tome, sinon on fait aussi du fromage blanc, on fait de la faisselle. Du fromage frais qui est à base d'échalotes et ciboulettes, je vais vous montrer. Donc là, on rentre dans la chambre froide qui est le lieu où on conserve ces fromages frais. J'ai décidé de faire ces produits au lait cru à destination de la restauration collective.
Donc ce sont quoi, des cantines scolaires par
Alors,
exemple?
Alors c'est des cantines scolaires, c'est des maisons de retraite. Ben, ce défi, il m'intéressait parce qu'en fait, en 2006, quand on commence à s'intéresser aux collectivités, on ne parle pas vraiment encore de produits locaux à introduire dans la restauration collective. On est sur des grandes centrales de restauration dont un certain nombre sont critiquées pour le contenu de menus un peu fadasses, on va dire, qui sont homogénéisés mais qui n'ont pas beaucoup de goût. Donc on s'est dit, essayons de regagner ce type de lieu de restauration et de leur proposer autre chose.
Et juste là, c'est la boutique, parce qu'en fait, on peut venir, les clients peuvent venir aussi acheter directement leurs produits ici.
Là, donc, vous voyez une vitrine, on vend nos produits laitiers, et puis l'intérêt, je dirais, de faire ces différents métiers ensemble sur un même site, c'est qu'on s'épanouit dans son boulot. On ne fait pas toujours la même chose. Hein. On prend plaisir à savoir où vont nos propres produits. On en discute la qualité gustative.
Avec les clients.
Hier, au téléphone, c'était un cuistot qui disait « Votre yaourt à la vanille, très très bon, mais on l'a trouvé un tout petit peu liquide. » Alors pourquoi ? Je lui ai dit d'habitude, il est plus ferme, mais en ce moment, les vaches ont un petit peu moins de richesse de lait à cause du froid. Donc, il faut vivre avec. Hein. Vous n'aurez pas toujours exactement le même fromage à chaque fois, ce qu'il comprenait très bien.
Ce choix d'avoir mis une fromagerie attenante à votre ferme, Paul, c'était aussi un choix d'ordre financier.
Je me suis dit, essayons de capter l'argent gagné par d'autres métiers que celui que nous faisons, en nous formant à la transformation, puis à la vente, autres métiers qui sont souvent mieux payés que le seul métier de produire de la matière première.
Voilà, donc le caillage est en cours.
Et alors aujourd'hui, vous en vivez bien mieux du coup? Enfin, est-ce que cette activité de fromagerie, ça vous a permis d'avoir une plus grande stabilité financière?
Oui, disons que quand on vend nous-mêmes, on n'est pas soumis à la même volatilité des prix que sont soumis ceux qui livrent à des laiteries et qui ne maîtrisent absolument pas le prix de leur matière première. Voilà, ils subissent le bon vouloir des laiteries qui elles-mêmes d'ailleurs sont, faut le dire, prises dans des relations de concurrence entre elles, ces laiteries, face à des grandes surfaces sans cesse plus concentrées.
Et qui exige d'acheter les produits au prix le plus bas, quoi.
Et qui exige, voilà, d'acheter toujours plus bas, qui menace d'avoir recours aux importations,
Et étrangère.
Donc. Étrangère.
Et donc, c'est quoi? C'est le lait allemand, danois?
C'est le lait allemand, c'est ça, danois, hollandais. Hein, et puis, je pense que si on maintient la qualité, on aura des clients fidèles. Et donc, on pourra maintenir les prix qui permettront à toute l'équipe des 5 personnes de vivre, pas grassement, hein, mais on prend aussi un vrai plaisir à faire ce qu'on fait. Quoi, hein.
Si avoir une fromagerie, ça a tellement d'intérêt, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'agriculteurs qui font ce choix? Quels sont les freins?
Ben, c'est du nouveau métier. Est-ce qu'on est formé? Non. Et puis, ben, y a aussi des freins, parce qu'il y a des très grosses coopératives dont les conseils d'administration sont constitués par des paysans qui veulent faire tourner leurs outils. Moi, j'ai failli ne pas le faire quand j'ai vu les mètres linéaires qu'il y avait en produits laitiers dans la plus grosse grande surface avec laquelle on bosse. Et ben, je me suis dit, mais à quoi bon se mettre à faire du fromage alors qu'il y a déjà des mètres et des mètres de couloirs de fromage? Est-ce que je vais le vendre, tout simplement? Qu'est-ce qui me différencie? C'était la question que je me suis posée. D'abord, faire un produit local pour la restauration collective. Ah, là, il n'y en avait pas. Bon, faire un produit bio local, ah, il n'y en avait pas. Il y avait du bio, mais industriel, pas local. Du bio, il y en avait, mais du pasteurisé, pas du bio au lait cru. On me dit des fois, mais Paul, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Ben oui, mais n'empêche, peut-être que sur une commune, il ne peut pas y avoir 3 producteurs de lait qui transforment, ou en tout cas pas les mêmes choses. Mais bon, il y a encore de la place.
C'était un reportage signé Alice Milot, à la réalisation Pierre Chaffangeon. Lundi, 7 milliards de voisins, je laisse les clés de la maison à Charlie Dupiot. Elle attend vos témoignages sur les parents au foyer. Vous pouvez dès maintenant appeler notre standard au 33 1 84 22 71 71. Et puis bien sûr, rendez-vous sur la page Facebook de 7 milliards de voisins. Mondoblog.